France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
L'état de droit n'est pas acquis. La critique des juges et du judiciaire, notamment lors d'affaires comme celle de Nicolas Sarkozy ou de Marine Le Pen, inquiète avocats, magistrats et bien au-delà. L'état de droit, d'ores et déjà affaibli aux États-Unis, est devenu en France une cible objective. Alors, à quel point l'état de droit est-il fragile dans notre pays? Comment protéger l'indépendance de la justice, la place et l'espace des contre-pouvoirs, leur légitimité? Pour en débattre, deux invités ce soir qui ont fait paraître des livres francs et passionnants. Marc Trévidic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de cour d'assises à la cour d'appel de Versailles, ancien juge antiterroriste, et vous avez fait paraître cet ouvrage intitulé « Justice présumée coupable » aux éditions Albin Michel en octobre dernier. Face à vous, Patrice Spinozzi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat au Conseil d'État et à la cour de cassation. Vous avez publié l'ouvrage intitulé « Menaces sur l'état de droit » aux éditions Alary en mai dernier. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. Et en vous lisant tous les deux, j'ai repensé à un vers de Jacques Prévert qui me hante depuis plusieurs années. Il explique « J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il faisait en partant » et je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas la même chose avec l'état de droit? Est-ce qu'on ne réalise pas sa valeur au moment où celui-ci est attaqué, où l'on prend conscience qu'il pourrait être abîmé, détruit et que l'on mesure au fond son importance première? Patrice Spinozzi.
Alors je pense que c'est très juste. L'état des droits, l'état de droit et les libertés dont on jouit, c'est un peu comme l'oxygène. C'est-à-dire que aujourd'hui, on le respire naturellement et sans véritablement s'en rendre compte. Et il faut que l'on en soit privé ou qu'il soit restreint pour que on comprenne toute sa valeur. Et je pense que c'est tout l'intérêt des missions comme celle-là, d'essayer de promouvoir et de faire comprendre quel est l'intérêt de l'état de droit, en quoi il bénéficie à l'ensemble des citoyens, et à quel point le message qui est relayé par certains partis populistes aujourd'hui est susceptible de porter atteinte aux libertés de tout un chacun, et non pas simplement d'aider à résoudre certaines difficultés politiques qui souvent sont illusoires. Donc il est important de parler d'état de droit et il est important de défendre nos libertés et que chacun le comprenne.
Je vous fais réagir, Marc Trévidic, à ce qu'écrit Patrice Spinozzi en introduction de son livre. Il explique « L'état de droit a un défaut, il n'est pas facile à définir, il est plus aisé d'expliquer son contraire, l'état de non-droit ». Fin de citation. Alors je vous transmets la patate chose. Définissez-nous ce qu'est l'état de droit.
Un état régi par le droit, mais à condition que le droit soit l'art du bien et de l'équitable. C'est une formule romaine de Sels dont je parle dans mon livre, c'est-à-dire tendre à la justice. Parce que le droit peut très bien oppresser, il faut être clair. Il y a plein de pays où le droit sert à oppresser le peuple. Donc état de droit dans une démocratie, c'est vraiment un état qui est régi par un droit supérieur quelque part. Constitution, convention internationale, des garanties, des libertés individuelles, des libertés publiques. Voilà, c'est à cette condition qu'on peut vraiment parler d'état de droit démocratique. Non pas d'état de droit totalitaire.
Est-ce que l'état de droit est le corollaire de la démocratie ou est-ce qu'il existe des démocraties sans état de droit?
Non, une démocratie avec un état qui ne serait pas régi par le droit, mais par le bon vouloir du souverain, par exemple, ou le bon vouloir des juges. Si les institutions, enfin les pouvoirs, n'obéissent pas à une norme supérieure, c'est qu'elles sont sans contrôle. Donc un état est régi par le droit.
Patrice Spinozzi, votre définition est la même?
Oui, bien sûr. Moi, j'aimerais ajouter un élément qui est un élément historique qui me semble absolument déterminant. La notion d'état de droit, elle existe depuis assez longtemps, mais l'état de droit dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un état de droit qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça n'est pas complètement un hasard. C'est-à-dire que les grands pays qui ont décidé de reconstruire l'Occident ont été très marqués par la guerre et pour éviter le retour de la violence, ils ont voulu lier les pays européens par des grands principes, des grandes libertés fondamentales. Et c'est bien ça, l'état de droit tel qu'il existe aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est évidemment un régime démocratique, donc un régime du peuple par le peuple, mais pas que. C'est aussi, pour se réclamer de la démocratie, accepter un certain nombre de grandes libertés, que sont la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, le droit au procès équitable. Et donc ça, c'est absolument déterminant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une démocratie, ça n'est pas qu'une forme, ça n'est pas que le fait de passer par les fourches codines de l'élection, c'est aussi adhérer aux libertés fondamentales. gouvernementales telles qu'elles ont été rédigées après la Deuxième Guerre mondiale dans une série de grandes conventions, la Convention européenne des droits de l'homme, la Convention des droits universels à l'ONU. Donc ça, c'est absolument déterminant, et ce d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui sont des modèles concurrents, dont on va très certainement parler, qui se réclament de la démocratie, qui s'appellent des démocraties illibérales, du i-privatif, donc des démocraties, mais qui ne recherchent pas comme objectif la liberté, et qui se développent évidemment aux États-Unis, mais aussi en Hongrie et de la même manière aujourd'hui en Italie.
Est-ce que l'intégrité de l'état de droit, je parle de notre pays, la France, est-ce que l'intégrité de l'état de droit est entamée aujourd'hui, Marc Trévidic, ou menacée du moins ?
Alors tout d'abord, première chose, je suis là aussi tout à fait d'accord, c'est que la démocratie se limite pas à l'élection. Et que il y a un certain populisme à vouloir limiter la démocratie à l'élection en disant ceux qui ne sont pas élus, bah, finalement, ils n'ont aucune légitimité, les juges notamment. On peut les mettre à la poubelle puisqu'ils ne sont pas élus. Je rappelle que la plupart des pays du monde, les juges ne sont pas élus. Ils sont là pour dire le droit.
Les juges et les hauts fonctionnaires d'ailleurs, hein, il y en a beaucoup dans le lot.
Mais ils sont là pour dire le droit. Donc ils ont cette fonction très particulière de dire le droit. Et c'est évident, quand on s'attaque trop à la justice, on s'attaque à ceux d'abord qui disent le droit. Et donc, état de droit, en s'attaquant à ceux qui disent le droit, il y a comme un problème. Ça devient très instable et très dangereux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir des contrôles lancés, c'est pour ça qu'il y a des voies de recours, etc. Mais le plus important, c'est les normes supérieures. Celles qui s'appliquent aux juges, mais qui s'appliquent aussi au président de la République, qui s'appliquent à tous les pouvoirs constitués. Constitution et convention internationale, les choses, on ne peut pas déroger. Et on voit la constitution américaine, qui est très solide, mais avec une faiblesse. Il faut aussi que les acteurs d'une démocratie jouent le jeu. Tous. Et c'est ce qu'on voit aux États-Unis. Quand quelqu'un ne veut plus jouer le jeu, et je pense au président des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, la démocratie est en péril. C'est un peu comme si on avait un édifice fragile, où il faut que tout le monde joue le même jeu.
Le président des États-Unis, Donald Trump, qu'on va vous faire écouter, justement, il s'exprimait le 19 mars dernier sur la chaîne Fox News.
Beaucoup ont demandé la destitution de ce juge. C'est un extrémiste de gauche, nommé par Obama, et il a déclaré qu'on ne devrait pas pouvoir expulser des criminels, des individus horribles, des chefs de gang. Il a affirmé qu'on ne devrait pas être autorisé à les expulser de notre pays. Or, c'est une prérogative présidentielle et non celle d'un juge local. Je trouve cela inadmissible. Personne n'a eu affaire à autant de tribunaux que moi, et je n'ai jamais désobéi à une décision de justice. On ne peut pas faire ça. Cependant, nous avons de mauvais juges, de très mauvais juges. Et ce sont des juges qui ne devraient pas être autorisés à siéger. Je pense qu'à un moment donné, il faut se demander ce qu'il faut faire face à un juge incontrôlable. Le juge dont nous parlons, je ne parle pas de ses autres décisions, mais pour celles qui me concernent, c'est un fou.
Ce juge dont parle le président américain Donald Trump, c'est James Boasberg. Il est juge fédéral à Washington. S'attaquer, Patrice Spinozzi, au juge, au système judiciaire, est-ce que c'est s'attaquer à l'état de droit ? Est-ce que ces attaques se confondent avec les attaques adressées à l'état de droit ?
Évidemment. Évidemment, puisque les juges sont le premier rempart de l'état de droit. Donc, dès qu'on cherche à porter atteinte à l'état de droit, on cherche à décrédibiliser la justice. L'exemple de Donald Trump est particulièrement parlant. Il est d'ailleurs globalement parlant pour l'ensemble de l'Occident de ce que peut être aujourd'hui une démocratie illibérale et à quel point un leader populiste peut décider de porter atteinte aux règles démocratiques. Bon, les États-Unis, pour nous, ça a toujours été un modèle de démocratie. Ben, on voit que en quelques mois, ils ont été complètement dévitalisés. Et ce qu'on vient d'entendre est très symptomatique des méthodes des populistes. C'est-à-dire qu'on va s'attaquer au juge en faisant plusieurs choses. D'abord, en politisant le juge. Le juge, par nature, n'est pas politique. Mais évidemment, l'homme politique va chercher à présenter le juge comme un adversaire politique. On vient de l'entendre, c'est un juge qui est un gauchiste. Et donc, qui rend une décision non pas parce qu'il dit le droit, mais parce qu'il s'oppose politiquement à l'action de Donald Trump. Ce qui est évidemment totalement faux, ce qui est évidemment une instrumentalisation. Et puis derrière, au-delà du fait de politiser le juge, on va le décrédibiliser en disant « Mais en fait, c'est un fou, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Il n'a pas de légitimité, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai été élu, donc je représente le peuple. Ce juge, qui l'a nommé ? Personne. » Et donc, c'est bien ce type de comportement, de dévalorisation de l'autorité judiciaire, qui est caractéristique des méthodes des populistes pour pour porter atteinte à l'état de droit.
Marc Trévidic, vous êtes d'accord notamment sur l'idée que politiser le juge, ça existe également en France, quand on parle de juge rouge, dans des affaires bien plus récentes dont on parlera dans quelques minutes dans cette émission. Mais politiser le juge, c'est là aussi un moyen de s'attaquer à l'état de droit directement ?
C'est le décrédibiliser. Un juge doit pas être politisé, et si on le politise, ça permet de dire c'est parce qu'il est de gauche et que moi je suis de droite qu'il a rendu cette décision en ma défaveur, et inversement d'ailleurs, parce que des deux côtés ça a existé évidemment. Donc c'est un moyen un peu facile, cliché, populiste. Facile, vous savez, aujourd'hui la particularité du peuple français, comme d'autres peuples, c'est que ils ont envie de voir midi à leur porte et qui se concentrent sur des médias qui les confortent dans leurs propres opinions. C'est ça la vraie difficulté de demain, c'est-à-dire que de plus en plus on voit côté binaire où il y a certains médias qui sont destinés à certaines personnes, certains autres médias plus à d'autres personnes, quelques médias au milieu. Et puis les réseaux sociaux qui peuvent balancer plein de sortes d'informations. Et voilà. Donc des gens sont très preneurs. Si vous êtes un soutien d'un homme politique, vous êtes pro-Trump, je vais pas prendre l'exemple français, ça sera plus facile.
On y reviendra, vous inquiétez pas.
Vous allez tout ce qu'on va vous vendre, qui va montrer qu'il y a des gens qui en veulent à Trump, va être avalé très très facilement. Voilà, c'est ça la difficulté dans ce côté binaire qu'on a aujourd'hui dans le monde. D'arriver à instiller de la réflexion vraiment et de la modération, sans dire que qu'un juge il peut rendre une mauvaise décision, mais on l'a vu, mais il y a des recours. Et puis les choses se font naturellement parce qu'on est un état de droit avec une cour d'appel, une cour de cassation.
La voix de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, à la sortie du tribunal le 25 septembre dernier.
Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette salle du tribunal correctionnel de Paris est d'une gravité extrême pour l'état de droit, pour la confiance qu'on peut avoir pour la justice. La haine n'a donc décidément aucune limite. J'assumerai mes responsabilités et s'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent.
Il y a deux choses que je trouve intéressantes dans cet extrait, Patrice Spinozzi. Pour commencer, la frontière entre la critique d'une décision de justice et la critique de l'état de droit semble, en apparence du moins, parfois extrêmement mince, premier point. Deuxième point, au fond, est-ce que Nicolas Sarkozy voulait attaquer lui-même l'état de droit dans cette déclaration, lorsqu'il explique par ailleurs que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé au sujet de l'état de droit? Il s'en fait lui-même le défenseur, c'est paradoxal.
Alors, pour répondre à votre question, d'abord, ce qui est certain, c'est que le principe, c'est que n'importe quel justiciable est susceptible de critiquer une décision de justice. Bon, c'est-à-dire que...
Et ça, on en a le droit, c'est légitime, c'est fondé.
Alors, moi, je vais vous dire, ça fait 25 ans que je suis avocat, j'ai jamais vu un client qui perd un dossier qui est satisfait. Voilà, donc il n'est pas content, et il dit « c'est injuste, la décision qui a été rendue, j'aurais dû gagner, j'ai perdu ». Et ça, au fond, dire « je suis pas content de la décision qui a été rendue », c'est quand même le droit de n'importe quel client. Ce que l'on ne peut pas faire, ou en tout cas ce qui est de nature à porter une atteinte à l'état de droit, c'est lorsque la critique dépasse l'insatisfaction d'avoir été jugé et de n'avoir pas obtenu gain de cause, et que on va attaquer soit le juge, soit la juridiction, soit les juges en tant que tels. Et là, on critique non plus une décision qu'on vient de subir, mais bien l'institution elle-même. Et c'est bien la critique de l'institution qui est susceptible de porter atteinte à l'état de droit. Donc oui, évidemment, la frontière, elle est ténue. Il est difficile de trouver un juste milieu. Et alors, je suis extrêmement mal placé placée pour commenter les propos de Nicolas Sarkozy, parce que c'est mon client, donc j'aurais du mal à dire que je suis en opposition avec lui, mais il a la liberté de penser ce qu'il veut. Je pense qu'il est évidemment déçu et très affecté par la décision qu'il subit, et il s'exprime d'une façon forte, mais engagée. Il est vrai qu'il est difficile, lorsqu'on est un ancien président de la République, et donc un homme politique, et que l'on est condamné, et que l'on estime qu'on est innocent, d'avoir des propos qui sont des propos personnels, sans qu'ils rejaillissent d'une manière ou d'une autre sur l'institution.
Marc Trévillic, sur mon second point, comment vous analysez le fait que dans cette déclaration, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, se pose lui-même en défenseur de l'état de droit, tout en attaquant l'institution judiciaire dans son ensemble?
C'est compliqué, parce qu'effectivement, on a beau dire que c'est injusticiable comme un autre, ce n'est pas vrai. Il faut être lucide. C'est un ancien président de la République. Donc quand il parle d'état de droit, ça n'a pas la même résonance qu'un autre justiciable qui serait outré de devoir aller en prison. Voilà. Moi, je dirais simplement une chose, je crois l'avoir dit immédiatement. Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de motif à une détention provisoire. C'était clair dans cette histoire, ce qui fait que dès le départ, je dis, il va être libéré très vite. Je pense l'avoir dit immédiatement. À partir de ce moment-là, il y a une certaine raison de sa part en tant que justiciable de contester cette décision. Néanmoins, deuxième constat, l'état de droit a fonctionné. Même par rapport à ce conseil initial que je viens de faire. Il y a une décision d'un tribunal de première instance, et il y a une cour appel qui est saisie et qui prend sa décision dans des délais raisonnables. Il faut être clair, sur les 2 mois qui étaient possibles, c'est venu assez vite. Donc l'état de droit en France fonctionne. Quelqu'un se plaint d'une décision de justice, il fait un appel, il a gagné cause en appel sur ce problème de détention provisoire. Je ne vois pas ce qu'il y a à rajouter là-dedans, si vous voulez. Ça s'est passé normalement. De mon point de vue.
Je reviens, Espinosi, sur un argument que vous avez soulevé un peu plus tôt dans cette discussion, l'opposition que l'on fait parfois, que les populistes font parfois entre l'état de droit d'un côté et la souveraineté populaire de l'autre. Pourquoi opposer à ce point? Pourquoi certains opposent-ils à ce point l'un et l'autre, ces deux concepts? Et est-ce qu'au fond, il y a une rivalité entre les légitimités de l'état de droit et celles de la souveraineté populaire?
Alors, dans une démocratie bien ordonnée, non. Voilà, c'est-à-dire que la souveraineté populaire s'exerce dans les limites de l'état de droit. Le problème, c'est que lorsque vous avez des hommes politiques qui sont des populistes, et donc, comment on définit le populiste, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le populiste, c'est celui qui tire sa légitimité de l'élection et qui considère qu'il n'y a pas d'autre légitimité que celle de l'élection. Dans une démocratie bien ordonnée, en France aujourd'hui, on est globalement d'accord pour pas être d'accord. Voilà, on peut dire des choses.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Eh ben, on est d'accord. Le principe d'une démocratie, c'est que peut-être que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez la liberté d'exprimer votre opinion. Peut-être que vous êtes dans la minorité, mais en tant que minoritaire, vous avez des droits qui sont et qui doivent être respectés. Et j'ai le devoir, moi, homme politique, ou d'écouter la voix de la minorité. Après, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis la majorité. Mais la minorité a des droits. Le populiste n'est pas dans cette logique-là. Le populiste, il est élu, et il considère que parce qu'il est élu, eh bien, sa légitimité écrase toute opposition à son action. Donc ça vaut évidemment pour l'autorité judiciaire, le juge qui lui dit « Ah ben, là, vous êtes en train de faire quelque chose que vous n'avez pas le droit de faire. Comment osez-vous prétendre que je n'ai pas le droit de faire quelque chose alors que moi j'ai été élu et que vous ne l'êtes pas ?» Mais c'est aussi les opposants politiques. Un opposant politique qui va essayer d'exister et de faire valoir son opposition, le populiste, va considérer qu'il est illégitime. Il n'a pas à prendre la parole ni à s'opposer politiquement puisqu'il a été battu. Et donc, il y a bien cette instrumentalisation de l'opposition dans les partis populistes, entre d'un côté la volonté du peuple, que ses élus est censé incarner, et de l'autre, eh bien, l'état de droit, qui est une limite juridique à l'action des gouvernants, hein, qui a été pensée comme cela, et qui, évidemment, entrave la liberté des dirigeants, ce que les populistes n'acceptent pas. Vous l'avez dit tout à l'heure très justement, en fait, le populiste, il n'accepte pas la règle du jeu démocratique. Donald Trump, aujourd'hui, quand il est condamné, il dit de toutes les façons, je n'appliquerai pas cette décision. Donc, pour qu'une démocratie fonctionne, il faut que les pouvoirs se respectent et s'écoutent. Et dans une démocratie où les populistes sont au pouvoir, eh bien, les dirigeants élus écrasent tout du fait de l'élection.
J'en reviens à cela, mais Marc Trévidic, comment expliquer en démocratie, cela vient d'être fait en partie par Patrice Pinozzi, mais comment expliquer en démocratie effectivement que la légitimité du vote, la légitimité de l'élection doit être contrainte, elle aussi tempérée, notamment par un certain nombre de règles que forme l'état de droit?
Parce que j'ai cru comprendre que vous alliez parler de Tocqueville à partir de 19h.
À partir de 19h,
bon,
exactement.
Eh ben, la dictature de la majorité, c'est Tocqueville. Ça veut dire qu'une démocratie doit protéger les minorités. C'est pas parce qu'on a la majorité qu'on doit écraser les autres. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il y a une dictature de la majorité. Ça, c'est Tocqueville. Donc, je n'ai rien inventé du tout.
Ça se manifeste comment, alors, concrètement, même, j'allais dire, dans l'application du droit?
L'état de droit, c'est garantir des droits à tous les citoyens, qu'ils soient minoritaires, que ça soit dans une ethnie, une race, une religion, etc., sur un peuple majoritaire qui voudrait les écraser parce qu'ils estiment qu'ils sont minoritaires, on va pas s'embêter avec eux. La liberté individuelle, elle est pour tout le monde, elle est individuelle. Donc voilà, j'enfonce un peu des portes ouvertes. Mais c'est ça la démocratie. Donc la démocratie, c'est aussi un système où il y a une séparation des pouvoirs. Dans le système français, dans la philosophie française, en tout cas un équilibre. Je sais bien qu'on n'est pas un pouvoir judiciaire et qu'on n'est qu'une simple autorité. Et qu'on n'est pas dans la définition de Montesquieu. Mais un équilibre qui fait que chaque pouvoir contrôle l'autre pouvoir et que tout le monde ne peut pas faire n'importe quoi. Le pouvoir, par nature, a besoin d'être contrôlé et ça, c'est une démocratie quand ça marche relativement bien.
Entrons dans le vif du débat et du sujet, Patrice Pinozzi. Comment est-ce que vous analysez les propos de Bruno Retailleau lorsqu'il expliquait dans le journal du dimanche que l'état de droit n'était pas, je cite, intangible ni sacré, qu'il y avait des règles de droit qui entravent le fonctionnement de l'État? Est-ce que là encore c'est une attaque frontale, directe à l'encontre de l'état de droit? Ces deux idées selon lesquelles au fond, l'état de droit, ce n'est pas quelque chose de sacré. On peut le faire évoluer au gré des évolutions sociétales.
Je pense que c'est un propos extrêmement dangereux, qui a fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre. Dans mon livre, je décris la menace du populisme de droite, qui est globalement incarnée par le Rassemblement national, la menace du populisme de gauche, qui est globalement incarnée aujourd'hui par les branches extrêmes de la LFI. Et je parle de ce que j'appelle le populisme du centre. En fait, le populisme du centre, c'est pas vraiment des populistes, mais ce sont des hommes politiques qui appartiennent à des partis qui sont des partis républicains, mais qui reprennent des propos, des méthodes de gouvernement qui sont issues des habitudes des populistes.
Bruno Retailleau, c'est du populisme
du centre. Ah oui, quand il dit ça, oui. Oui, quand il dit en fait que l'État, quand il dit que l'État.
Mais c'est
droit...
du centre, je veux dire.
Ah ben, Bruno Retailleau. Aujourd'hui, il était ministre de la République quand il s'exprimait, d'un gouvernement qui était un gouvernement républicain, et aujourd'hui, il est le président du premier parti de la droite républicaine. Donc, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais il incarne évidemment, aujourd'hui, un parti républicain. Quand il dit ça, c'est ça qui est dangereux, quand il dit l'état de droit n'est pas intangible et sacré, et que vous êtes un électeur... normal, de droite et un soutien, par exemple, de LR. Vous vous dites, en fait, mon président, et moi je suis républicain, mais mon président considère que l'état de droit n'est pas quelque chose d'intangible et sacré. Donc, il libère une forme de parole à cet égard. Il accepte l'idée de remettre en cause l'intangibilité de l'état de droit. Et c'est ça qui est dangereux. Et oui, c'est du populisme du centre, parce que c'est une forme de caisse de résonance, en réalité, aux idées des populistes, auxquelles on habitue l'ensemble de la population. Et le danger, c'est que, petit à petit, en abaissant les critères de ce qui est la démocratie et la République, et de l'autre, les critères de ce qui appartient au discours populiste, eh bien, on prend le risque, évidemment, de faire monter les extrêmes. Et c'est très exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, le but de notre action, nous, défenseurs de l'état de droit, c'est de dénoncer ce type de propos, et précisément de les renvoyer à leur espace naturel, à savoir l'espace des populistes, et qu'ils ne viennent pas encombrer et infester de façon poreuse le discours qui est le discours des partis démocratiques.
Une forme de parole libérée, nous dit Patrice Spinozzi. Est-ce que c'est une chose, une tendance même que vous observez dans le travail quotidien de magistrats que vous effectuez, Marc Trévidic, notamment une parole libérée à l'encontre des juges, du système judiciaire et au-delà d'ailleurs de tout ce qui fonde l'état de droit d'une manière institutionnelle?
De toute façon, à partir du moment où les juges sur la place publique sont critiqués, attaqués par des gens importants, ce qui va se produire derrière, c'est que le citoyen lambda que l'on juge va pouvoir penser qu'il peut faire pareil. Alors avec plus de risques pour
lui.
On ne
sait pas que le citoyen là-dessus a devancé peut-être certains responsables
politiques. Non, mais il y a un courant général de non-respect des institutions générales. Enfin, je veux dire de l'instituteur jusqu'au juge, c'est pas propre. Policier, c'est pas propre du tout. Au juge, de ce point de vue-là, c'est beaucoup plus général, hein, c'est clair. Par contre, ça, à la limite, hein, c'est un mouvement général. Par contre, un respect pour notre socle, c'est-à-dire la Constitution, les grandes conventions internationales, ça c'est essentiel. On sait que les Américains respectent complètement leur Constitution. Le deuxième amendement, on critique parce que c'est le droit d'être armé, etc. Mais c'est un côté un peu intangible, un peu sacré du truc. Or, il faut savoir, moi je me souviens très bien, pour une anecdote rapide, après les attentats de novembre 2015, et puis je m'étais retrouvé dans un débat avec un homme politique qui parlait de centre rétention pour tous les fichiers S, etc. J'ai dit, c'est pas très conforme à la Constitution. Et il a dit, dans ce cas-là, il suffit de changer la Constitution. Et cette phrase-là est revenue plein de fois après, dans des différentes bouches de droite, de gauche, etc.
Et c'est une chose que l'on entend régulièrement aujourd'hui.
C'est très très dangereux, mais j'avais rétorqué, je me souviens très bien, c'est embêtant parce que réécrire la Constitution, vous voyez, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, ça fait partie de la Constitution, c'est partie intégrante, c'est la valeur constitutionnelle. Vous allez réécrire la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, bon courage. Il y a quand même des textes, on va avoir du mal à les réécrire, ce texte de 1789. Ça montre qu'il y a des choses quand même intangibles qu'il faut surtout pas toucher, évidemment. Et si jamais on voulait toucher des choses comme ça, qui se croirait le droit de revenir sur les fondements de la République française ?
Patrice,
non, mais c'est un point qui est absolument déterminant parce que l'interrogation. Aujourd'hui, la Constitution est évidemment notre texte fondamental dans lequel sont inscrits effectivement l'ensemble des droits et des libertés individuelles et ce texte doit être absolument maintenu. Les populistes et le Rassemblement national, d'ailleurs, pour ne pas le citer, a dans son programme des modifications de la Constitution. C'est-à-dire que, évidemment, à partir du moment où la Constitution dérange et bloque, parce qu'elle garantit un certain nombre de droits à un certain nombre de minorités, parce que notre logique, c'est l'universalité des droits, c'est-à-dire que tous les citoyens ont vocation à jouir des mêmes droits, eh bien, les populistes proposent de porter atteinte à la Constitution.
Mais ça, pardonnez-moi, je vous coupe, comment comprendre aussi qu'il existerait un texte absolument sacré qu'on ne pourrait jamais toucher, là aussi, au gré des évolutions? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que, au fond, texte presque religieux qu'on ne pourrait amender jamais?
Non, j'ai juste vous donner sur ce point une illustration que je trouve claire. En réalité, la Maison France, c'est une maison. Voilà. Donc, quand vous êtes élu, vous êtes locataire de la maison. Donc, vous pouvez être de droite, vous pouvez être de gauche, vous pouvez être du centre, et vous arrivez dans la maison, et vous avez le droit de changer ce que vous voulez dans la maison. Donc, vous pouvez réagencer les pièces, vous pouvez ouvrir des fenêtres, tout ça, c'est possible. C'est la modification de ce qu'on appelle l'état du droit, c'est-à-dire l'état de la législation actuelle. En revanche, ce que vous ne pouvez pas faire, parce que vous n'êtes que locataire, c'est de porter atteinte à l'intégrité de la maison. Vous ne pouvez pas décider de détruire la maison. Vous ne pouvez pas attaquer les murs porteurs de la maison et fragiliser l'ensemble de l'édifice. C'est ça l'état de droit. La Constitution, elle a été pensée pour le temps long. Et en réalité, il y a des majorités qui sont votées au gré des années. Et on ne peut pas, au seul motif qu'à un moment, il y a une majorité qui se dégage pour tel ou tel principe, revenir sur la Constitution. La Constitution, c'est l'ADN de notre démocratie. Quand on touche à l'ADN de notre démocratie, on remet en cause la valeur même de la démocratie.
Bon, mais en 1958, on a refondé une démocratie, on a refondé notre Constitution et on est demeuré dans une démocratie, Marc Trévidic.
C'est beaucoup plus profond que ça. C'est le droit naturel, ça nous ramène à Aristote, à Cicéron. La phrase « tous les hommes naissent libres et égaux en droit », Vous voulez qu'on revienne là-dessus? Qui va se permettre de revenir là-dessus? Parce que c'est pas le problème de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'à valeur constitutionnelle. C'est un problème de l'évolution de l'humanité. Les Romains se sont inspirés de la philosophie grecque, c'est devenu le droit naturel.
Mais là, Marc Trévidic,
donc c'est beaucoup plus profond que ça. Et moi, c'est un acquis.
Vous parlez du bloc de constitutionnalité, donc cet ensemble de textes greffés. J'allais dire aux valeurs constitutionnelles, mais la Constitution, c'est aussi le texte concret de 1958.
Oui, bien entendu, mais avec tout ce bloc derrière qui a valeur constitutionnelle. Donc c'est le fruit de l'histoire de France et de l'histoire de l'humanité surtout. Encore une fois, ce que je viens de dire, le droit naturel, Aristote, Cicéron, ça date quand même de pas mal de temps. Et quand en 1789 on dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est jamais que le fruit de ça. Donc c'est l'humanité l'évolution de l'humanité qui est en cause. Donc moi, s'il y a des gens qui ont envie de dire que tous les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit, qui se présentent sur ce programme-là, et on rigolera, pour le coup. Voilà. Moi, l'état de droit, c'est quand même quelque chose qui s'imite même pas à la Constitution de 58, si vous voulez.
Un autre point qui m'a beaucoup intéressé dans votre ouvrage, Patrice Spinozzi, je vous cite, c'est l'alliage entre liberté et sécurité qui est parfois formé par certains responsables politiques. Je vous cite, « Or ce lien idéologique, écrivez-vous, entre sécurité et liberté, crée une confusion néfaste à l'état de droit. En faisant de la sécurité un prérequis essentiel de l'exercice de nos libertés, les populistes d'extrême droite inversent la hiérarchie entre ces deux notions et installent dans les consciences le fantasme d'une société dont tout danger aurait été éradiqué. » Fin de citation. Expliquez-nous justement pourquoi ce lien entre sécurité et liberté vous semble pernicieux.
Parce que c'est un lien qui est évidemment très souvent fait par un certain nombre d'hommes politiques pour justifier des restrictions des libertés. Normalement, dans un régime qui est un régime populiste, à chaque fois qu'on va chercher à restreindre les libertés des citoyens, on ne dit pas aux citoyens « on va restreindre vos libertés parce qu'on a envie de restreindre vos libertés ». On dit « vous comprenez bien qu'il y a un danger ». Et parce qu'il y a un danger, eh bien, il faut qu'on limite vos libertés parce que on ne peut pas à la fois garantir votre sécurité et garantir vos libertés. Alors d'abord, je crois, mais je serais très intéressé d'avoir l'opinion du magistrat Trévidic sur le sujet, parce que moi, je n'y crois pas, en fait. C'est-à-dire que c'est une opposition qui, dans ma vie professionnelle, ne s'incarne pas. Je vais vous donner un exemple tiré de mon activité professionnelle. Il y a maintenant une dizaine d'années, on a porté un certain nombre de dossiers pour obtenir le fait que l'avocat puisse intervenir dès la première heure en garde à vue. Et ça a été donc la modification du droit à l'avocat dès la première heure en garde à vue dans la législation. J'étais sur des plateaux, qui étaient des plateaux de télé ou des plateaux de radio, avec des représentants des syndicats de police, qui me disaient, et qui disaient à l'ensemble des auditeurs, vous ne vous rendez pas compte, nous n'allons plus pouvoir travailler. L'enquête ne va plus être possible. Ça veut dire qu'on n'aura plus la possibilité d'avoir des aveux, il va y avoir un impact considérable sur notre travail. Un an plus tard, l'avocat a été entré dès la première heure en garde à vue, et en pratique, il n'y a eu aucune conséquence sur l'efficacité des enquêtes. Donc, il y a une instrumentalisation de cette idée que tout droit reconnu aux personnes viendrait nuire à l'efficacité de la justice. Moi, je crois très personnellement qu'une bonne démocratie est une démocratie qui est capable de garantir la sécurité des citoyens tout en conservant la valeur des droits fondamentaux de l'ensemble des personnes qui sont mises en cause. Et si on accepte le contraire, ou si on laisse dire le contraire, on glisse vers des régimes qui sont des régimes autoritaires et dictatoriaux. Et donc, ça n'est pas, en tout cas, la société dans laquelle, moi, j'ai envie de vivre, ni que mes enfants grandissent.
Marc Trévidic, est-ce que cet alliage entre sécurité et liberté vous effraie autant? C'est vrai qu'il est de plus en plus mis en lumière depuis une dizaine d'années dans le débat public aujourd'hui.
Bon, l'exemple est excellent de la garde à vue. J'ai vécu ça aussi. Mm-hmm. Les policiers complètement vent debout parce qu'on autorisait l'avocat en garde à vue. On a vu que ça n'a pas eu de conséquences. C'est une réalité. C'est même sécurisant pour les policiers. Je le dis très franchement, et les policiers aujourd'hui, dans leur immense majorité, sont tout à fait d'accord, se sont complètement pliés à ça. Il y a aussi une nouvelle génération. Mais on est parti d'un système qui était quand même, très inquisitoire, très policier quand même. Donc il y a eu des évolutions petit à petit qui se font dans la douleur, c'est tout à fait normal. Et c'est parler de cette marche vers une amélioration justement de l'état de droit, qui n'est pas une remise en cause. On va améliorer les choses, mais il faut toujours l'améliorer dans le sens des principes qu'on s'est fixés au départ. Exemple, présomption d'innocence, exemple, il vaut mieux laisser éventuellement un coupable en liberté que mettre un innocent en prison. Tous ces principes de fond qui sont attaqués constamment, notamment ça. Et vous savez pourquoi ? Puisqu'on vous dira, ouais, mais un innocent en prison, il risque pas de tuer qui que ce soit, alors qu'un coupable en liberté, il risque de tuer. Donc d'un point de vue sécuritaire, finalement, est-ce que le principe ne devrait pas être inversé ? Et on le voit dans toutes les mesures exceptionnelles, dans les moments de crise, où là, on va décider de balayer au nom de la sécurité, évidemment l'état d'urgence en matière de terrorisme l'a montré, Guantanamo l'a montré aussi, et face à ces moments de crise, on est quand même très très fragile, il faut bien le reconnaître, par rapport au discours sécuritaire. On a beaucoup de mal à tenir la barque, et je crois que ça tient justement quand le monde judiciaire est uni. Et quand je dis uni, c'est avocats, magistrats, vous voyez, c'est surtout ceux qui sont dans les juridictions et qui pratiquent, qui ont besoin d'être unis sur ces principes de fond.
La voix lumineuse de Robert Badinter, il s'exprimait le 4 juillet 1997 au sujet de l'état de droit.
Moi, je serais plutôt enclin à redouter les vides de l'état de droit, les zones de non-droit. Les lieux où l'arbitraire se réfugie, la méconnaissance des règles de droit par ceux qui ont à les appliquer. Un état de droit qui serait un peu à la Potemkin. On aurait des institutions, mais elles ne toucheraient pas à l'essentiel, c'est-à-dire qu'elles n'assureraient pas la protection des libertés fondamentales. Vous savez, c'était l'idée qui présidait à la création du Conseil constitutionnel à l'origine. Il n'était pas né pour être ce qu'il est. On ne voulait pas d'un juge constitutionnel qui veille sur les libertés fondamentales des citoyens. Ce que l'on voulait, c'était une instance qui soit chargée de remettre le Parlement à sa place si d'aventure il essayait de sortir des bornes étroites fixées par la Constitution. Ça, c'est le mauvais état de droit. Pour le reste, alors d'accord, en effet, ça ne doit pas devenir une sorte de prolifération obsessionnelle, mais nous n'en sommes pas là.
Je vous ai vu acquiescer silencieux, concentré l'un et l'autre, Patrice Pinozzi.
Mais enfin, moi je suis.
Nous n'en sommes pas là, dit-il.
Non, on n'en est pas là. On a aujourd'hui en France, on vit encore dans un état de droit. Le danger, c'est qu'il est effectivement menacé. Et le problème, c'est que nous sommes obligés aujourd'hui d'expliquer pourquoi il faut maintenir l'état de droit, parce que précisément, il y a un risque qu'il soit considérablement affaibli. Moi, ce qui me fascine hein, vraiment quand j'entends Robert Badinter, c'est que cet homme qui était un immense humaniste, hein, que l'on vient de panthéoniser en grande pompe, aujourd'hui. Alors que tout le monde considère que c'est un homme exceptionnel, aujourd'hui, dans le discours politique, plus personne ne se réclame de ses idées. L'humanisme de Robert Badinter, il n'existe plus aujourd'hui dans notre monde politique. Et d'ailleurs, dans les fantasmes des citoyens, on parlait tout à l'heure des juges et des attaques contre les juges en disant mais les juges sont à gauche. Mais quelle gauche ? Enfin, c'est une pour la pratiquer, la justice n'est pas dans sa grande majorité une justice empreinte de cette forme d'humanisme. Robert Badinter, il s'est battu pour les libertés individuelles, il s'est battu pour que la prison devienne un lieu de dignité, il s'est battu pour le pardon et non pas pour la vengeance. Toutes ces notions sont aujourd'hui mises hors du débat public et considérées par la plupart des gens comme en réalité un angélisme bêlant et totalement critiqué. On a perdu cette humanité-là. Et il y a une immense hypocrisie, je trouve, de la part de notre République et de nos responsables politiques, aujourd'hui, de panthéoniser Robert Badinter en faisant une figure de notre République, alors même que, dans la vie politique pratique, plus personne ne se réclame des idées qu'il défendait.
Marc Trévidic, en quelques mots de réaction à ces mots de Robert Badinter.
Effectivement, j'ai l'impression qu'on se rachète pour avoir oublié ses idées, quoi. On se rachète en le mettant au Panthéon parce qu'on a mis ses idées à la poubelle. Et donc ça fait un peu mal, parce que bon, c'était un homme admirable, mais c'est d'abord ses idées qui comptent, hein. Faut être clair, on est tous mortels, il n'y a que les idées qui nous survivent.
Merci beaucoup à tous les deux. Marc Trévidic, président de la Cour d'assises à la Cour d'appel de Versailles, ancien juge antiterroriste. Vous avez fait paraître Justice présumée coupable aux éditions Albin Michel. Et Patrice Pinozzi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Vous avez fait paraître, quant à vous, Menace sur l'état de droit aux éditions Alary. C'était en mai dernier. Merci beaucoup à tous les deux et merci également à celles et ceux qui ont fait penser, imaginer cette émission à mes côtés. Juliette Mouélic, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet. À suivre. Après le journal, on va un peu tirer le fil de cette discussion que nous enseigne Alexis de Tocqueville du Monde d'aujourd'hui. On en parlera avec l'enseignante Françoise Mélogneau.